Ils arrivaient au pont de la Concorde. Ils le traversèrent en silence, puis ils longèrent le palais Bourbon. Norbert de Varenne se remit à parler. « Mariez-vous, mon ami. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre seul à mon âge. La solitude aujourd'hui m'emplit d'une angoisse horrible. La solitude dans le logis, auprès du feu, le soir. Il me semble alors que je suis seul sur la terre, affreusement seul, mais entouré de dangers vagues, de choses inconnues et terribles. Et la cloison qui me sépare de mon voisin que je ne connais pas m'éloigne de lui autant que des étoiles aperçues par ma fenêtre. Une sorte de fièvre m'envahit, une fièvre de douleur et de crainte, et le silence des murs m'épouvante. Il est si profond et si triste, le silence de la chambre où l'on vit seul. Ce n'est pas seulement un silence autour du corps, mais un silence autour de l'âme. Et quand un meuble craque, on tressaille jusqu'au cœur, car aucun bruit n'est attendu dans ce morne logis. » Il se tut encore une fois, puis ajouta « Quand on est vieux, ce serait bon, tout de même, des enfants. » Ils étaient arrivés vers le milieu de la rue de Bourgogne. Le poète s'arrêta devant une haute maison, sonna, serra la main de Duroy et lui dit « Oubliez tout ce rabâchage de vieux, jeune homme, et vivez selon votre âge. Adieu. » Et il disparut dans le corridor noir. Duroy se remit en route, le cœur serré. Il lui semblait qu'on venait de lui montrer quelques trous pleins d'ossements, un trou inévitable où il lui faudrait tomber un jour. Il murmura « Bigre, ça ne doit pas être gai chez lui. Je ne voudrais pas un fauteuil au balcon pour assister au défilé de ses idées, nom d'un chien. » Mais, s'étant arrêté pour laisser passer une femme parfumée qui descendait de voiture et rentrait chez elle, il aspira d'un grand souffle avide la senteur de verveine et d'iris envolée dans l'air. Ses poumons et son cœur palpitèrent brusquement d'espérance et de joie. Et le souvenir de Madame de Marelle, qu'il reverrait le lendemain, l'envahit des pieds à la tête. Tout lui souriait. La vie l'accueillait avec tendresse. Comme c'était bon, la réalisation des espérances. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied, dans l'avenue du Bois de Boulogne, avant d'aller à son rendez-vous. Le vent ayant changé, le temps s'était adouci pendant la nuit, et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. Tous les habitués du bois étaient sortis ce matin-là, cédant à l'appel du ciel clair et doux. Duroy marchait lentement, buvait l'air léger, savoureux comme une friandise de printemps. Il passa l'arc de triomphe de l'étoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. Il les regardait, trottant ou galopant, hommes et femmes, les riches du monde. Et c'est à peine s'il les enviait maintenant. Il les connaissait presque tous de nom, savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie, ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. Les Amazones passaient, minces et moulées dans le drap sombre de leur taille, avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. Et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix, comme on récite des litanies dans une église, les noms, titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. Et quelquefois même, au lieu de dire « Baron de Tanclay, prince de la Tour Enguerrand », il murmurait « Côté Lesbos, Louise Michaud du Vaudeville, Rose Marquetin de l'Opéra ». Ce jeu l'amusait beaucoup, comme s'il eût constaté, sous les sévères apparences, l'éternelle et profonde infamie de l'homme, et que cela lui réjouit, excité, consolé. Puis il prononça tout haut « Tas d'hypocrites » et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. Il en vit beaucoup soupçonner de tricher au jeu, pour qui les cercles, en tout cas, étaient la grande ressource, la seule ressource, ressource suspecte à coup sûr. D'autres, fort célèbres, vivaient uniquement des rentes de leurs femmes, c'était connu. D'autres, des rentes de leurs maîtresses, on l'affirmait. Beaucoup avaient payé leurs dettes, acte honorable, sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire. Mystère bien louche. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine et qu'on recevait partout, dans les plus nobles maisons. Puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage, mais dont les tripotages effrontés dans les grandes entreprises nationales n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Tous avaient l'air hautain, la lèvre fière, l'œil insolent, ceux à favoris et ceux à moustaches. Du roi riait toujours, répétant « c'est du propre tas de crapules, tas d'escarpes ». Mais une voiture passa, découverte, basse et charmante, traînée au grand trot par de minces chevaux blancs dont la crinière et la queue voltigeaient, et conduite par une petite jeune femme blonde, une courtisane connue qui avait deux grooms assis derrière elle. Du roi s'arrêta, avec une envie de saluer et d'applaudir cette parvenue de l'amour qui étalait avec audace dans cette promenade et à cette heure des hypocrites aristocrates, le luxe crâne gagné sur ses draps. Il sentait peut-être vaguement qu'il y avait quelque chose de commun entre eux, un lien de nature, qu'ils étaient de même race, de même âme, et que son succès aurait des procédés audacieux de même ordre. Il revint doucement, le cœur chaud de satisfaction, et il arriva un peu avant l'heure à la porte de son ancienne maîtresse. Elle le reçut, les lèvres tendues comme si aucune rupture n'avait eu lieu, et elle oublia même, pendant quelques instants, la sage prudence qu'elle opposait, chez elle, à leurs caresses. Puis elle lui dit, en baisant les bouts frisés de ses moustaches, « Tu ne sais pas l'ennui qui m'arrive, mon chéri. J'espérais une bonne lune de miel, et voilà mon mari qui me tombe sur le dos pour 6 semaines. Il a pris congé, mais je ne veux pas rester 6 semaines sans te voir. » Surtout après notre petite brouille. Et voilà comment j'ai arrangé les choses. Tu viendras me demander à dîner lundi. Je lui ai déjà parlé de toi, je te présenterai. » Du roi hésitait, un peu perplexe, ne s'étant jamais trouvé encore en face d'un homme dont il possédait la femme. Il craignait que quelque chose le trahît, un peu de gêne, un regard, n'importe quoi. Il balbutiait, « Non, j'aime mieux ne pas faire la connaissance de ton mari. » Elle insista, fort étonnée, debout devant lui et ouvrant des yeux naïfs. « Mais pourquoi ? Quelle drôle de chose! Ça arrive tous les jours, ça! Je ne t'aurais pas cru si nigaud, par exemple! » Il fut blessé. « Eh bien, soit, je viendrai dîner lundi. » Elle ajouta, « Pour que ce soit bien naturel, j'aurai les forestiers. Ça ne m'amuse pourtant pas de recevoir du monde chez moi. » Jusqu'au lundi, du roi ne pensa plus guère à cette entrevue. Mais voilà qu'en montant l'escalier de Madame de Marelle, il se sentit étrangement troublé, non pas qu'il lui répugnât de prendre la main de ce mari, de boire son vin et de manger son pain, mais il avait peur de quelque chose, sans savoir de quoi. On le fit entrer dans le salon, et il attendit comme toujours. Puis la porte de la chambre s'ouvrit, et il aperçut un grand homme à barbe blanche, décoré, grave et correct, qui vint à lui avec une politesse minutieuse. « Ma femme m'a souvent parlé de vous, monsieur, et je suis charmé de faire votre connaissance. » Du roi s'avança en tâchant de donner à sa physionomie un air de cordialité expressive. Et il serra avec une énergie exagérée la main tendue de son hôte. Puis, s'étant assis, il ne trouva rien à lui dire. Monsieur de Marelle remit un morceau de bois au feu et demanda « Voici longtemps que vous vous occupez de journalisme ?» Du roi répondit « Depuis quelques mois seulement. » « Ah, vous avez marché vite !»«
Oui, assez vite. »
Et il se mit à parler au hasard, sans trop songer à ce qu'il disait, débitant toutes les banalités en usage entre gens qui ne se connaissent point. Il se rassurait maintenant et commençait à trouver la situation fort amusante. Il regardait la figure sérieuse et respectable de Monsieur de Marelle avec une envie de rire sur les lèvres en pensant « Toi, je te fais cocu, mon vieux, je te fais cocu. » Et une satisfaction intime, vicieuse, le pénétrait, une joie de voleur qui a réussi et qu'on ne soupçonne pas, une joie fourbe, délicieuse. Il avait envie tout à coup d'être l'ami de cet homme, de gagner sa confiance, de lui faire raconter les choses secrètes de sa vie. Madame de Marelle entra brusquement et les ayant couverts d'un coup d'œil, souriant et impénétrable, elle alla vers du roi qui n'osa point, devant le mari, lui baiser la main, ainsi qu'il le faisait toujours. Elle était tranquille et gaie, comme une personne habituée à tout, qui trouvait cette rencontre naturelle et simple, en sa rouerie native et franche. Laurine apparut et vint, plus sagement que de coutume, tendre son front à Georges.
la présence de son père l'intimidant. Sa mère lui dit « Eh bien, tu ne l'appelles plus belle amie aujourd'hui ?» Et l'enfant rougit, comme si on venait de commettre une grosse indiscrétion, de révéler une chose qu'on ne devait pas dire, de dévoiler un secret intime et un peu coupable de son cœur. Quand les forestiers arrivèrent, on fut effrayé de l'état de Charles. Il avait maigri et pâli affreusement en une semaine, et il toussait sans cesse. Il annonça d'ailleurs qu'il partait pour Cannes le jeudi suivant sur l'ordre formel du médecin. Ils se retirèrent de bonne heure, et Duroy dit en hochant la tête « Je crois qu'il fila un bien mauvais coton. Il ne fera pas de vieux os. » Madame de Marelle affirma avec sérénité « Oh, il est perdu. En voilà un qui avait eu de la chance de trouver une femme comme la sienne. » Duroy demanda « Elle l'aide beaucoup. » « C'est-à-dire qu'elle fait tout. Elle est au courant de tout, elle connaît tout le monde sans avoir l'air de voir personne. Elle obtient ce qu'elle veut, comme elle veut et quand elle veut. Oh, elle est fine, adroite et intrigante, comme aucune celle-là. En voilà un trésor pour un homme qui veut parvenir. » Georges reprit « Elle se remariera bien vite, sans doute. » Madame de Marelle répondit « Oui. Je ne serais même pas étonnée qu'elle eût en vue quelqu'un, un député. » À moins que... qu'il ne veuille pas, car il y aurait peut-être de gros obstacles moraux. Enfin voilà, je ne sais rien. » Monsieur de Marelle grommela avec une lente impatience. « Tu laisses toujours soupçonner un tas de choses que je n'aime pas. Ne nous mêlons jamais des affaires des autres. Notre conscience nous suffit à gouverner. Ce devrait être une règle pour tout le monde. » Duroy se retira, le cœur troublé et l'esprit plein de vagues combinaisons. Il alla le lendemain faire une visite aux forestiers et il les trouva terminant leurs bagages. Charles, étendu sur un canapé, exagérait la fatigue de sa respiration et répétait « Il y a un mois que je devrais être parti. » Puis il fit à Duroy une série de recommandations pour le journal, bien que tout fût réglé et convenu avec M. Walter. Quand Georges s'en alla, il serra énergiquement les mains de son camarade. « Eh bien, mon vieux, à bientôt. » Mais comme Madame Forestier le reconduisait jusqu'à la porte, il lui dit vivement « Vous n'avez pas oublié notre pacte ? Nous sommes des amis et des alliés, n'est-ce pas ? Donc si vous avez besoin de moi, en quoi que ce soit, n'hésitez point. Une dépêche ou une lettre, et j'obéirai. » Elle murmura « Merci, je n'oublierai pas. » Et son œil lui dit « Merci, d'une façon plus profonde et plus douce. » Comme Duroy descendait l'escalier, il rencontra, montant à pas lents, M. de Vaudrec, qu'une fois déjà il avait vu chez elle. Le comte semblait triste. De ce départ, peut-être. Voulant se montrer homme du monde, le journaliste le salua avec empressement. L'autre rendit avec courtoisie, mais d'une manière un peu fière. Le ménage forestier partit le jeudi soir.